switchons. Quelques minutes pour réenchanter ensemble notre quotidien, interroger nos habitudes, revisiter nos réactions et vivre sous un angle nouveau pour être plus vivant et davantage en relation avec nous-mêmes, les autres et le monde. Un podcast proposé par Valérie Lebrun de Le Planque.
L'un de mes grands bonheurs de 2023 a été de retrouver mes copains et amis de lycée avec lesquels je n'avais pas eu de contact depuis plus de 30 ans. On s'est réunis pour une soirée. Comment expliquer qu'après quelques secondes ou minutes, j'ai eu l'impression de ne pas les avoir quittés, de retrouver la même qualité de relation, de complicité, la même acceptation de ce qu'ils sont comme à l'époque du lycée? Comment expliquer cet aujourd'hui qui était le même qu'hier? En fait, j'ai tout simplement fait l'expérience du lien et de sa magie. Jon Kabat-Zinn, cet Américain grand diffuseur de la méditation de pleine conscience, nous en donne sa définition. Nous sommes tous reliés les uns aux autres par un fil invisible et puissant qui traverse le temps, les frontières physiques et émotionnelles. C'est cette notion de lien si fondamentale que nous explorons aujourd'hui. Elle paraît d'autant plus incontournable que les philosophes, les psychologues et des chercheurs actuels considèrent que les liens sont en crise généralisée. Et en même temps, ils nous affirment que ces liens constituent la voie de sortie de cette crise et une voie d'évolution de notre monde. Pour commencer, c'est à vous de jouer. Qu'est-ce que ce mot de lien évoque pour vous ? Quel type de lien avez-vous développé au cours des années ? Et que diriez-vous de la qualité de ces liens ? Je vous ai donné un exemple de lien entre des personnes car c'est spontanément le premier lien auquel on pense. Ce lien aux autres est le reflet de notre besoin fondamental de connexion, d'appartenance et de compréhension mutuelle. Certes, ce lien-là est primordial car l'être humain est un animal social. De notre naissance à notre mort, nous avons besoin des autres pour vivre et pour survivre. Et ils sont même la clé de notre équilibre. D'ailleurs, dans le sondage que je vous ai proposé, 80% d'entre vous répondent que ces liens sont indispensables à leur vie. Et les autres 20% les pensent relativement importants. Ce lien représente toutes les interactions que nous vivons en tant que citoyens, membres d'une famille, amoureux ou amis, ou dans nos activités professionnelles. Montaigne nous parlait de son amitié si forte avec la Boétie, parce que c'était lui. Parce que c'était moi, dit-il. Et Philippe Claudel, magnifique écrivain et réalisateur, nous parle du lien père-fils. En tant que père, je veux seulement que mon ombre t'épargne les grandes brûlures. Je ne veux pas qu'elle te prive de lumière. Et bien sûr, on se souvient de la rencontre du petit prince de Saint-Exupéry avec le renard. Il lui explique : apprivoiser, c'est créer des liens. Nous aurons alors besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, et je serai pour toi unique au monde. Et je retrouve là exactement ce que j'ai ressenti en retrouvant mes amis de lycée. Mais en fait, il n'y a pas qu'un seul type de lien qui tisse nos existences, mais trois. Le lien aux autres, que nous avons déjà vu, et également le lien à nous-mêmes et le lien à la nature. On va d'abord explorer le lien à soi-même. Le premier niveau de ce lien est la relation entre tête, cœur, corps. Dans le présent, je prends conscience que je suis en lien avec mes pensées, mes émotions et mes sensations. On peut y ajouter la dimension spirituelle, qui me relie à plus de profondeur ou à plus grand que moi, quel que soit le nom qu'on lui donne. L'amour, l'univers, le divin, l'harmonie. C'est ce qu'on appelle être en lien avec son soi profond. Tout à fait accessible à chacun de vous, à chacun de nous, lorsqu'on se laisse le temps de ressentir ce qui nous met en joie, par exemple. Cette relation à soi est une composante fondamentale de notre bien-être mental et émotionnel. Je vous en partage sept éléments. Le premier, c'est la connaissance de soi, comprendre ses valeurs, ses croyances, ses forces, ses faiblesses. Le deuxième, c'est l'acceptation de soi, de ses imperfections et de ses défauts. Et c'est aussi prendre soin de soi par des habitudes de vie saines en termes d'alimentation, d'exercice, de sommeil. C'est être bienveillant avec soi-même, surtout dans les moments difficiles, et traiter ses erreurs avec gentillesse, plutôt que s'autocritiquer. Prendre le temps de s'écouter, ses propres besoins, désirs et émotions. Trouver un équilibre entre les exigences extérieures et les besoins personnels. Et enfin, reconnaître et célébrer ses propres succès, aussi petits soient-ils. L'ensemble de ces 7 éléments permet d'être dans la confiance en soi, la lucidité et la bienveillance sans complaisance. Enfin, le 3e lien est celui avec la nature, le vivant, le monde. George Sand, romancière du 19e siècle, se laisse emporter par la beauté de la nature. Elle est belle pour qui la voit, elle est bonne à celui qui l'aime, elle est juste quand on y croit et quand on la respecte, nous dit-elle. Le lien à la nature représente la connexion émotionnelle, spirituelle et physique entre les êtres humains et leur environnement naturel. Vous avez déjà ressenti une émotion forte devant un paysage, le dessin des nuages, le rappel de parfums ou de saveurs souvenirs, le sifflement d'un oiseau ou le balai d'une fourmilière. Et certains de vous se sont peut-être sentis transportés vers ailleurs ou plus grand. Mais c'est tout simplement ça le lien avec la nature. Pour Jean-Jacques Rousseau, la nature est source de consolation, de contemplation et de renouvellement spirituel. Une étude montre que les enfants de 2 à 6 ans ont une appréciation très positive de la nature et même une relation affectueuse avec elle. Et des chercheurs affirment que l'être humain est biophile, c'est-à-dire qu'il aime la vie et tout ce qui est vivant. Et c'est ce qui explique pourquoi l'évolution de l'humanité s'est faite au contact de la nature. Et d'ailleurs, très souvent, la nature sert de toile de fond à une grande partie de vos souvenirs positifs. Le lien à la nature intègre le lien au vivant, mais aussi au plus grand que soi. Le fait de se sentir appartenir à cette grande famille des humains et à la dimension spirituelle nous conduit directement à la notion d'interdépendance. C'est Jane Goodall qui nous en parle, la célèbre anthropologue qui a beaucoup observé les chimpanzés. Elle nous dit « L'interdépendance est la loi fondamentale de la nature. Rien n'existe en isolement. Nous sommes tous connectés et notre bien-être dépend de celui des autres. » Nous venons de décrire les 3 liens. Nous allons voir maintenant les bénéfices lorsqu'ils sont développés et nourris, ou les conséquences négatives lorsqu'ils sont au contraire en déficit. Tout d'abord, le lien à soi. Cette connexion intérieure a plusieurs effets. Elle façonne la perception que nous avons de nous-mêmes, elle influence nos pensées et nos émotions, et en conséquence, elles influencent nos actions vers l'extérieur. Ce qui signifie que la qualité de la relation à moi-même conditionne la qualité de la relation à l'autre. Par exemple, si je suis exigeante et dure avec moi-même, il est vraisemblable que ma perception de l'autre sera envisagée sous le même angle. Mais j'oublierai de tenir compte du contexte de la personne qui est forcément différent du mien. Ça va m'amener vraisemblablement à juger cette personne comme faible ou laxiste. Donc il est important d'être lucide avec soi-même, ce qui permet d'être lucide avec les autres. Et voilà pourquoi l'introspection est l'inverse de l'égoïsme. Au contraire même. Et d'ailleurs Socrate nous disait « Connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers ». Il semble donc que ce premier pas vers soi-même soit la condition indispensable pour aller vers l'autre et aussi vers le plus grand. À l'inverse, si on ne réussit pas à nourrir cette relation à soi, on peut ressentir un vide intérieur, de la souffrance, ce qui nous pousse à nous nourrir de consommation extérieure, potentiellement nocive, et qui finalement renforce le vide et le sentiment de solitude. D'ailleurs, la solitude touche un tiers des personnes dans les pays industrialisés, qui sont plutôt basés sur le patriarcat, qui décourage le ressenti et l'expression des émotions. Entre 2012 et 2018, soit en 6 ans, deux fois plus d'adolescents présentaient des niveaux élevés de solitude à l'école, ce qui est en totale opposition avec l'accès facilité à Internet. Voyons maintenant ce qui se passe pour le lien à l'autre. Des études ont montré que ce sentiment fort de lien à l'autre améliore la perception des situations. Elles sont ressenties comme moins menaçantes et plus source d'opportunités. Et les personnes aussi se perçoivent plus fortes et plus optimistes. Par exemple, les participants d'une étude devaient évaluer la raideur de la pente d'une colline. Ceux qui étaient venus accompagnés d'un ami estimaient la pente moins raide que ceux qui étaient venus seuls. Un autre exemple avec les enfants. Ceux qui sont prématurés et qui bénéficient du dispositif kangourou, c'est-à-dire le pot à pot avec leur mère, présentent 40% de risque de décès en moins que ceux qui sont mis en couveuse. Et nous l'avons tous expérimenté. Le simple fait de tenir la main d'un proche diminue la sensation de douleur physique ou morale. Et c'est pourquoi l'enfant retrouve le sourire grâce au bisou magique de sa maman sur son bobo. Boris Cyrulnik, célèbre psychiatre qui nous a apporté le concept de la résilience, nous confirme qu'un enfant élevé dans la tendresse et la sécurité va développer un sentiment d'attachement sécur et il pourra explorer le monde de façon plus autonome, plus ouverte et plus harmonieuse pour lui et les autres. On va maintenant faire un détour par les médias sociaux. Un adulte américain sur trois, âgé de 18 ans, déclare être en ligne presque constamment. En France, en 2022, les Français passent en moyenne 32 heures par semaine devant un écran, ce qui correspond à un tiers du temps disponible hors sommeil et au total à 17 années de vie. Et dès 2 ans, un enfant passe chaque jour en moyenne 56 minutes devant un écran. Alors s'ils sont utilisés pour favoriser les relations, communiquer ou se faire des amis, les réseaux sociaux réduisent le sentiment de solitude. Mais en revanche, s'ils sont utilisés pour remplacer des liens réels par des interactions en ligne, cela augmente de façon très importante. En conclusion de cette partie sur les bénéfices de la relation à l'autre, plus je sors de moi-même, plus je fais attention aux autres. Et c'est ainsi qu'apparaissent la fraternité, la compassion, le dévouement, la disponibilité, le partage et la gratitude. Ce qui continue de faire grandir mon lien à moi-même dans un cercle vertueux. On s'est aperçu que le lien social joue un rôle crucial dans la santé mentale et physique au point d'influencer considérablement notre espérance de vie. L'absence de soutien ou un réseau social limité a un impact plus important sur la mortalité que la consommation d'alcool, la sédentarité, l'obésité ou même le tabagisme. Ainsi, le manque de liens sociaux augmente les chances de décès d'au moins 50%. Et pour illustration, l'isolement carcéral quasi total a des conséquences catastrophiques sur la santé mentale des détenus. Nous venons donc de voir que l'absence de liens peut être dommageable, mais il existe aussi des liens sociaux dégradés ou nocifs qui ont un impact négatif sur nous et notre environnement. Certaines relations peuvent être abusives, toxiques, manipulatoires, ou elles peuvent créer des dépendances affectives, des conflits ou des tensions. Ces relations-là méritent d'être reconnues, traitées, ou pourquoi pas coupées si elles ne peuvent pas changer. Voyons enfin les conséquences sur le lien à la nature et au monde. De multiples recherches ont montré trois niveaux d'effets positifs de la nature sur l'homme. Le premier effet bénéfique, c'est au niveau physique, sur la pression artérielle, le sommeil, la fabrication d'endorphines, la baisse des douleurs. Le deuxième effet bénéfique, c'est sur le comportement, la baisse de l'agressivité et de la criminalité, l'augmentation de sensations de sécurité et de la civilité. Et le troisième effet bénéfique est psychique. C'est la baisse des tensions et des émotions difficiles. Ce dernier point est confirmé par le fait qu'il y a moins de maladies psychiques chez les prisonniers exposés à des jardins que chez les prisonniers qui ne voient pas de nature. Vous avez donc compris qu'être sensible à la nature qui nous entoure et que se ressentir appartenir à plus grand que nous emmène l'ensemble vers une conscience accrue de la réalité et vers des comportements tolérants et généreux qui assurent la protection de l'ensemble. Mathieu Ricard, un célèbre moine bouddhiste, fait la distinction entre la solitude subie et la solitude choisie, riche et inspirante, qu'il vit en tant qu'ermite. Une telle solitude, loin de le couper du monde, devient un puissant moyen de s'ouvrir aux autres, de prendre conscience de l'interdépendance de toutes choses et d'engendrer un amour sans limite envers l'ensemble de l'humanité. Enfin, un autre bénéfice du lien avec la nature et le monde est qu'il élargit notre conscience vers le futur, celui de nos enfants et des générations à venir, pour lesquelles nous avons un rôle à jouer. Un rôle primordial pour éviter que ne se perpétue le sanglot de la terre qui pleure, comme le dit Thich Nhat Hanh, moine vietnamien, écrivain et militant pour la paix. Voilà le moment de vous proposer, comme à chaque fois, des exercices qui vous aideront à devenir acteurs de notre quotidien commun. Le premier se nomme « À quoi je passe mon temps ?». Sur quelques jours, notez précisément le type d'activité que vous avez et le temps que vous y consacrez. Travail, trajet, loisirs, passion et bien sûr les différents liens avec vous-même, la famille proche ou élargie, les amis, les relations. Et sous quelle forme ? Réelle ou virtuelle ? Faites une synthèse et extrapolez sur une semaine, un mois. Faites le constat de cette réalité et de ces temps de liens dont nous avons parlé. Cette réalité vous convient-elle ? Y a-t-il des changements que vous souhaiteriez apporter et dans quel but ? Vous pouvez alors dessiner la cible idéale et mettre en place les changements nécessaires pour y arriver. Le deuxième exercice concerne la qualité des liens aux autres que vous entretenez. Pour moi, la relation peut se symboliser par un brin de laine constitué de plusieurs filaments. Dans une relation enrichissante, les filaments sont tous présents, solides, mais il arrive que certaines fois, certains se dégradent ou se cassent. Et même quelquefois, le brin de laine lui-même se rompt. Je vous propose donc d'explorer quelques relations que vous avez, qu'elles soient gratifiantes ou pas du tout, et de les regarder comme si elles étaient ce brin de laine et ses filaments. Solides, souples, effilochés, détériorés, tenant à un simple fil, prêtes à se rompre, inexistantes. De quoi cette relation aurait-elle besoin ? D'être entretenue, solidifiée, réparer ou peut-être couper clairement et de façon explicite. Sur mon site Impulsium, vous trouverez plus de ressources sur ces deux sujets. Martin Buber, un philosophe israélien et autrichien, nous dit que l'homme croit qu'il est au mauvais endroit, alors qu'il est en fait au bon endroit, mais qu'il ne le sait pas. Ce qui lui fait croire qu'il est impuissant et qu'il ne peut pas agir. En fait, nous dit-il, vous êtes au bon endroit et vous pouvez agir. Peut-être pas seul, car c'est difficile, mais en petit collectif. Abdennour Bidar, qui est philosophe et figure de l'islam libéral, appelle ces petits collectifs des arches de Noé. Vous avez compris que les liens tissent nos existences. Ce que je vous propose est d'être celle et celui qui tisse, d'être tisserande et tisserande à votre mesure. Pour ce monde solidaire qui coopère face aux dangers, qui développe l'empathie pour mieux vivre au quotidien et mieux préparer le futur.
À très bientôt pour un nouvel épisode de Switch On à retrouver sur impulsium.fr ou metropolis.com.